Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI et de toutes les icônes sportives ce week-end. Après Hugues Fabrice Zongo hier, une immense championne de basket est avec nous aujourd'hui. Andy Miem est dans nos studios ce dimanche. Internationale française au palmarès fantastique. Jeune retraitée qui quitte les parquets. Sans trop de regrets, j'espère, mais non sans jeter un dernier coup d'œil dans le rétroviseur, dans son immense carrière, médaille olympique, sacre européen, rien que sous la tunique bleue. Elle nous parlera aussi de ses actions dans son autre pays, le Cameroun. Mondial Sport avec Andy Miem en invité exceptionnel. C'est parti.
Ouais, allez, Céline Dubert, on va gagner.
Allez,
on est champion d'Europe. Elle voit champion d'Europe.
Extraordinaire.
57-53.
Ouais,
57-53, elle s'impose.
Ah là, c'est que du bonheur. Encore. C'est génial. Ah non, on n'a plus de mots, sauf que... Oh là, finale. On va avoir une médaille. C'est génial.
Pour Gabby Williams. Pas de faute sur Gabby Williams. Et elle est... Et oui, elles y sont, les Françaises, Fred. Elles sont en demi-finale. Comme le volley masculin, comme le basket masculin, comme le hand masculin et féminin, elles y sont, nos bleus. La victoire, donc, 67-64 pour cette magnifique équipe de France qui élimine l'Espagne, vice-championne olympique, et qui aura donc le droit de s'offrir une revanche en demi-finale face à des Japonaises. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elles vont être belles, ces demi-finales.
Un titre européen en 2009, une médaille d'argent au JO de Londres en 2012, les fameuses braqueuses, et puis une médaille de bronze en 2021, toujours au jeu, mais à Tokyo, cette fois une liste d'exploits loin d'être exhaustive. Bonjour Andy Miem.
Bonjour.
C'est quoi cette grimace quand vous réécoutez au micro de France Télévisions après la qualification finale à Londres?
Parce que c'est toujours très dur de réentendre sa voix. Et alors là, avec l'excitation en plus, c'est horrible. Vraiment, c'est une torture.
C'est pas si agréable que ça de se replonger dans le passé. Alors là, maintenant, c'est vraiment la fin de votre carrière depuis quelques semaines à peine. Vous n'avez pas envie de revivre ces moments-là? Vous ne regardez pas les vidéos? Vous réécoutez pas les archives?
Alors, tant qu'il n'y a pas ma voix, ça me fait énormément plaisir, mais c'est vraiment un supplice.
Très bien. Bon, écoutez, on va quand même vous consacrer toute une émission et vous pourrez la réécouter autant que vous voudrez pour vous habituer à votre voix. Nous sommes là pour vous rendre hommage sur RFI dans Mondial Sport ce dimanche, en compagnie également de notre correspondant basket aux États-Unis, mais il n'y a pas que la NBA dans sa vie. Notre Wemby reporter qui se trouve actuellement dans le 51e État américain, à savoir la Vendée. Théo Quintard, bonjour.
Bonjour à tous.
Ça va?
Ça va très bien, et vous?
Eh bien écoutez, ça va très bien, on va avoir des échanges très riches avec vous, mon cher Théo Quintard. Andy Miem, si je ne me trompe pas, vous êtes né à Reims en mai 1988.
C'est ça.
On s'est presque croisés. Moi, je suis né à Reims également en 88, un petit peu plus tard. Vous êtes passé par Charleville-Mézières. On aurait pu se croiser là-bas aussi, même si vous, c'était pour des affaires sérieuses du basket. voilà, pour ce que je sais. Mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir pour moi comme pour les auditeurs. Bonjour Anne Dufort-Cornillet.
Bonjour.
Dites-nous tout ce qu'il faut savoir sur Andy Miem.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses. 19 ans de carrière, 19 titres en club, 235 sélections en équipe de France, un titre de championne d'Europe et 8 autres médailles, dont 2 aux Jeux Olympiques. Des chiffres forcément qui impressionnent. Mais rassurez-vous, je ne compte pas vous faire un listing Wikipédia pour vous présenter Andy. Même si bon, on pourrait s'arrêter là avec un tel palmarès, on comprend bien que vous êtes l'une des plus grandes joueuses du basket français. Mais ce n'est pas comme ça que vous vous présentez dans la vie. Aussi surprenant que ça puisse paraître, vous n'avez pas pour habitude d'annoncer que vous êtes basketteuse professionnelle. Vous vous présentez plutôt comme une femme, passionnée de basket, certes, mais avant tout une femme discrète, croyante et aussi avec la joie de vivre. Et ça, on en a la preuve puisqu'on vous entend souvent chantonner à l'entraînement ou sur vos réseaux sociaux. Vous êtes discrète, mais alors vous allumez quand même être un petit peu une influenceuse, notamment sur Instagram. Et nous, forcément, on prend plaisir à découvrir le quotidien d'une joueuse avec sa dernière finale en carrière, par exemple.
Encore un matin demi, une argile au creux de mes mains, let's go!
On voit aussi vos progrès à la guitare ou en langue étrangère.
Trazwiche, как дела? Меня зовут Энди, мне 27 лет, и я из Франции. До свидания.
Donc ça, c'était votre présentation en russe quand vous étiez au Dynamo Koursk, saison 2015-2007. Mais vous avez aussi d'autres choses qui vous animent, et vous vous en cachez pas d'ailleurs, c'est l'émission Koh-Lanta. Vous adorez cette émission, rien ne peut vous faire manquer un épisode. C'est sûrement le côté challengeant qui vous attire, parce que comme sur les parquets, vous aimez beaucoup aller au duel, vous adorez ça. Mais si aujourd'hui on vous distingue par votre shoot soyeux, c'est grâce à votre père, c'est lui qui vous a poussé. Puisque bon, chez les Miem, la balle orange, c'est comme une religion. Vos cousins, vos oncles, vos frères, tout le monde joue. Donc pour vous, c'était assez naturel finalement. Mais vous, vous êtes allé un petit peu plus loin. Puisque à 11 ans, vous faisiez déjà 1m80. Alors je sais que vous n'aimez pas qu'on vous parle de votre taille, mais c'est quand même ce qui vous a distingué, Andy. Puisque à 13 ans, vous avez donc quitté Reims, la ville dans laquelle vous avez grandi, pour rejoindre le Pôle France à Toulouse. On a vu déjà beaucoup de talent à ce moment-là chez vous, mais cette fois, vous êtes confronté à la concurrence. Et là, vous n'aviez pas le choix. Vous n'aviez pas le choix, vous deviez absolument travailler. Et pour ça, vous aviez votre source d'inspiration, Michael Jordan. Une vidéo par jour, c'était la dose quotidienne. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque 3 ans plus tard, vous avez intégré l'INSEP. Vous êtes désormais 1m88 à ce moment-là, et donc aujourd'hui encore, bien sûr. Et de fil en aiguille, vous intégrez l'équipe de France Espoir, et vous connaissez votre première sélection avec l'équipe A en 2008. Et ensuite, l'aventure a duré 13 ans. C'est pas mal quand même, pas mal du tout. Donc 30 ans de basket au total. Vous n'imaginez pas vivre sans ce sport. Mais vous savez bien que toutes les choses ont une fin, toutes les bonnes choses ont une fin. Vous annoncez donc votre retraite en avril dernier, mais pas question pour vous de sortir par la petite porte. Il vous faut une dernière médaille et vous y arrivez. Alors je sais que ce n'était pas celle que vous souhaitiez, mais quand même, vous êtes vice-championne de France avec Tarbes et c'est pas rien. Vous avez laissé quelques larmes sur le parquet et aujourd'hui, vous êtes avec nous dans notre studio pour évoquer tout ça et pour se projeter vers votre nouvelle aventure. À 37 ans, vous avez plein de projets qu'on a hâte de découvrir.
C'est complet ?
C'est plutôt très complet, ouais. C'est plutôt très complet.
C'était dur.
On disait, mais vous êtes bien sorti, Anne Dufort-Cornillier. Andy Miem, je disais, retraité sans trop de regrets. Bon, il y a ce petit bémol, effectivement. Vous vouliez partir sur un titre de champion de France, vous partez sur un titre de vice-championne de France. Ça va, quelques semaines après, on s'en remet. Ou alors, la compétitrice ne se remet jamais vraiment de passer à côté d'une victoire.
Alors, forcément, à chaque fois qu'on en parle, j'ai toujours un petit truc qui me gratte la gorge. Mais non, globalement, j'essaie d'être satisfaite de ce qu'on a pu réaliser et de cette dernière saison. Parce qu'effectivement, on en reparlait ces derniers temps, mais peu de gens nous voyaient aller si loin dans la compétition. À un moment donné, on a même failli jouer pour le maintien. Donc, il faut essayer de remettre un peu les choses en place et se dire que c'est quand même pas si mal de finir par une médaille d'argent quand personne ne nous voyait arriver en finale.
Allez, on va compléter le portrait d'Anne avec quelques illustrations. Elle en a touché quelques mots de certaines de vos plus grandes passions.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé.
4 points cardinaux, 4 tribus. Vous allez vous battre pour vous-même, mais vous allez surtout représenter votre région.
Visez.
Tous au bout du rouleau. S'il n'y a plus de femmes, c'est mort.
C'est la honte.
On n'est pas prêt, regarde le bazar qui est autour.
Lâche pas.
La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est.
La
revanche des quatre terres. Une aventure Koh-Lanta comme vous n'en avez jamais vu.
Je ne suis pas comme toutes ces filles qui ont des visages, qui ont des habits.
Allez, je l'ai amené à tard, mais...
Andy Miem. Plus belle la vie, c'était pour vous achever.
Ouais, là, vraiment, vraiment.
Koh-Lanta, Amel Bent, Plus belle la vie et autres feuilletons. Non, mais c'est aussi comme ça qu'on découvre les sportifs. Ça nous intéresse toujours de savoir ce qu'ils écoutent, ce qu'ils regardent. Si vous deviez choisir entre toutes ces passions.
Ah, c'est dur. Mais...
Amel Bent, c'est vraiment la chanson qui vous accompagne. C'est pas une chanson toute récente, donc j'imagine qu'elle vous accompagne depuis longtemps. Une chanson de guerrière un peu.
Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'Amel Bent, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, que j'ai suivi un peu dès ses débuts. Il me semble que c'était à La Nouvelle Star. Et voilà, j'ai bien aimé son état d'esprit, puis sa voix et ses chansons. Donc, alors voilà, ma philosophie entre autres, mais j'ai envie de dire, il y a pas mal de ses chansons que j'ai écoutées. Et voilà, c'est une artiste que j'apprécie.
Et peut-être bientôt participante à Koh-Lanta, après tout.
Je sais pas.
Qu'est-ce qui vous empêche? Jeu d'aventure où il faut se donner et pas beaucoup manger.
Ouais, c'est ça.
Bon, allez, on va revenir plus sérieusement sur le plan sportif. Parmi tout ce qu'a énuméré Anne, il y a quelques instants, si vous deviez choisir un ou deux grands souvenirs, est-ce que ce serait avec l'équipe de France, ces grands exploits olympiques ou l'Euro remporté en 2009, est-ce que ce serait plutôt en club, est-ce que vous êtes capable de faire un choix là, maintenant que votre carrière elle est terminée? Oui.
Clairement, et il était fait depuis un moment, pour moi c'est les Jeux de Londres 2012.
Pour quelle raison alors?
Parce que c'était mes premiers jeux, encore une fois, personne ne nous attendait là. C'était un petit peu le début de notre histoire, de ce nouvel effectif qui était créé par Pierre Vincent. Parce que évidemment, le résultat.
Finale, on rappelle. Hein,
oui, médaille d'argent. Et puis, parce que pour tout ce qu'on a vécu, en fait, pendant cet événement et on était voilà comme des enfants à Disneyland à découvrir rencontrer des stars mondiales du monde du sport et puis il y a tout simplement s'amuser ensemble et à faire du basket à côté et en plus à performer donc c'était vraiment le moment rêvé.
Parmi ces stars, Usain Bolt peut-être. Oui, pardon, vous vouliez dire ça, excusez-moi.
On a vu la même relance, je crois qu'il y a un 100 mètres qui vous a marqué aussi.
Clairement. Là, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une de mes coéquipières, Edwige Lawson, qui avait pas mal de connaissances. Et donc, on s'est fait offrir deux places pour aller voir la finale du 100 mètres. Donc, c'était vraiment inespéré. Mais ça, j'ai encore le souvenir. Et rien que d'en parler, j'ai les poils qui se hérissent parce que c'est quand même particulier de voir un 100 mètres. On voit le silence qui se fait juste avant le départ de la course. Et une fois que c'est lancé, c'est la folie. Alors, juste à côté de nous, on avait la délégation jamaïcaine. Donc, c'était vraiment la fête. Et j'en garderai un souvenir à vie, je pense.
Et c'était l'apogée du 7 Bolt, évidemment. Théo Quintard, Andy Miem, vous qui suivez bien le basket et qui avait probablement vibré à cette époque-là, et notamment en 2012, qu'est-ce qu'elle représente pour le passionné de balle orange que vous êtes?
Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente, on va dire, peut-être l'âge d'or du basket féminin, notamment en 2012. J'avais 12 ans. Je me souviens notamment des chansons au micro de France Télévisions. Ça, c'était une image. On en avait parlé plus tôt dans l'année avec Isabelle Yacoubou. Ça, c'était une image forte. Donc, voilà. Après, on a vu la montée en puissance de l'équipe de France. Mais malheureusement pour vous, Andy, l'équipe de France, ça s'est achevé un petit peu avec un goût amer en bouche. Deux derniers matchs, si je dis pas de bêtises, en novembre 2021, alors que vous auriez aimé continuer jusqu'au JO de Paris 2024. Mais apparemment, c'était pas le souhait du sélectionneur Jean-Aimé Toupane.
Qu'on a également reçu ici dans Mondial Sport. Alors, on n'a pas abordé ce sujet-là avec lui.
C'est pas grave.
Vous pouvez éventuellement compléter ce que dit Théo Quintard. Oui, alors c'est aussi parfois le risque quand on a un parcours exceptionnel, quand les choses s'arrêtent sur la fin, c'est dur aussi. Il y a des choses dures à accepter. Vous êtes d'accord avec ce que dit Théo?
Oui, clairement, c'était 2012, c'était vraiment un moment extraordinaire. Après, je reviendrai sur la phrase qu'Anne a dit tout à l'heure, toutes les bonnes choses ont une fin. Et moi, ma fin avec l'équipe de France, c'était en 2021. Donc, il y a la façon dont nous, on voit les choses, dont on les imagine. imagine et on les souhaiterait. Et puis bah après il y a la réalité, il y a un sélectionneur qui fait ses choix et bon bah dans ses choix, j'étais pas dedans. Donc voilà, c'est la vie et puis il faut faire avec.
Est-ce que quand on revient sur ce que dit Théo Quintard, on réalise à l'époque qu'on est en train de marquer l'histoire du basket français. On a fait il y a quelques mois également une émission consacrée à l'histoire récente du basket français chez les hommes et chez les femmes de manière parallèle. Il y a vraiment eu au niveau de l'équipe de France une explosion de grands résultats au 21e siècle et quelque part les femmes ont même commencé à gagner des choses, des euros, dont un avec vous en 2009. Avant les hommes, avant la génération Tony Parker, est-ce que vous réalisiez à cette époque-là que vous étiez en train de marquer les esprits, le grand public, médiatiquement avec ses chansons? Il y avait des joueuses extrêmement charismatiques, vous, mais on a parlé d'Isabelle Yacoubou, Céline Dumas. Est-ce que vous réalisiez que vous étiez en train de marquer vraiment les esprits et l'histoire?
Pas du tout. Vraiment pas du tout.
Et maintenant, avec le recul?
Maintenant, oui. Maintenant, oui, parce qu'effectivement, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, voilà, merci pour tous les moments qu'on a passé à vous suivre, en fait, à suivre l'équipe, les braqueuses. Merci pour les titres, merci pour les médailles. Et effectivement, alors tout le monde me dit, il faudra peut-être un petit peu de temps pour avoir ce recul, pour un petit peu réaliser tout ce qui a été fait, tout ce qui a été accompli. Et donc je pense qu'il me faudra ce temps. Mais c'est vrai que voilà, quand on a les retours des gens qui viennent nous voir et qui nous parlent de ça avec parfois des étoiles plein les yeux, on se dit ah oui, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé.
En tout cas, vous avez marqué le jeune Théo Quintard de 12 ans qui, oui, dans sa Vendée, rêvait à vos exploits. Oui, moi aussi, ça me... Je me rappelle qu'on a le même âge, donc
oui, oui.
J'étais pas heureux d'apprendre cette nouvelle tout à l'heure. Allez, un peu de musique dans Mondial Sport sur RFI. Et puis, on vous retrouve dans quelques instants, Andy Miem. Je rappelle que vous avez des origines camerounaises. Ça tombe bien. Musique camerounaise issue de la playlist de RFI dans Mondial Sport. Batata baka mia maleanindi Pisa ya yiki uoko Basoko baka mia maleanindi Pisa ya yiki uoko Mane ununaya nae. Voilà que je parle quand le micro est ouvert. Diaz Bangué, man dans Mondial Sport sur RFI, notre invité exceptionnel, Andy Miem, grande basketteuse française, ex-basketteuse depuis quelques semaines, retraitée au palmarès fantastique. On a un MVP dans Mondial Sport, une légende ivoirienne du basket, Malik Dao, qui a tenu à vous adresser, Andy Miem, un message.
J'ai connu Enden Miem en 2003. Moi, j'arrivais au Krebs de Reims pour faire ma formation d'entraîneur de basket. Et c'est M. Jean-Yves Marescal, qui était mon tuteur à cette époque-là, qui me l'a présenté. Et c'était un matin, voilà, il faisait quelques longueurs du travail de vitesse avec son papa Jacques. Et puis, c'est comme ça que plus tard aussi, j'ai travaillé avec Jacques comme entraîneur à Cormontreuil, qui est une banlieue de Reims. Donc j'ai travaillé avec le père Jacques Miem. Et puis je l'ai suivi. Je ne dirais pas que je la connais personnellement, même si quand on se voit, on se salue. Et voilà, je l'ai connu, j'ai suivi sa carrière, j'ai suivi sa trace en club, en équipe de France. Elle a été capitaine de l'équipe de France. Je dirais que c'est la force tranquille. Enden, c'est la force tranquille. Voilà, c'est pas une fille qui est très expansive, mais il faut pas la chercher. Il faut pas la chercher, sinon bah le sang camerounais revient à la surface. Voilà, c'est, je suis très fier de ce qu'elle a accompli, de sa carrière. Aujourd'hui, je ne peux que lui souhaiter le meilleur dans sa reconversion. J'ai même failli, il y a 2 ans ou 3 ans, participer à son camp de basket, toujours avec l'invitation de mon tuteur Jean-Yves Marescal, mais ça n'a pas pu se faire, j'étais pris sur d'autres activités. Mais bon, j'espère un jour avoir l'occasion de participer au camp Enden Miem et puis apporter aux gamins le peu que je sais. Voilà, bravo pour ta carrière et puis je te souhaite une très très bonne reconversion, Andy, comme j'aimais t'appeler.
Malik Daou qui est de retour, qui est dans l'avion, qui est de retour de la Basketball Africa League. On le retrouvera rapidement dans Mondial Sport. Alors Malik, j'aime bien le charrier là-dessus, il a un certain âge. A priori, il est plus proche de la génération de votre père que de la vôtre. Anne, vous en avez touché un mot. Le basket, c'est un peu une affaire de famille chez les Miem.
Oui, c'est votre père qui vous a lancé, qui vous a poussé. Et je crois que c'est vraiment quelqu'un qui compte forcément pour vous, c'est votre père. Mais en plus aussi dans votre histoire, dans votre carrière. Mais il y a aussi votre frère qui joue. Est-ce que voilà, vous continuez à un peu aller chercher le duel avec lui? Parce que je sais que votre carrière est plus grande et je vous ai déjà entendu dire que voilà, vous étiez un petit peu au-dessus.
Là, clairement, je ne peux plus dire ça parce que là, ça fait un moment que... Bon, la dernière fois qu'on a fait un contre un, clairement, j'ai pas vu le jour parce que maintenant, il fait 2m10 et qu'il est sacrément costaud. Donc, c'est quand même pas simple de le jouer en un contre un. Mais oui, effectivement, le basket, c'est vraiment une histoire de famille. C'est vraiment, je pense, mon père qui nous a insufflé cet amour tout simplement du jeu, du basket, et puis du travail qu'il faut aussi mettre en œuvre et abattre à côté si on veut progresser.
C'est quoi qu'il a en plus ce sport, le basket, par rapport aux autres? Vous avez touché à d'autres sports, vous en avez essayé d'autres, et qu'est-ce que ça vous a apporté de jouer, de dévouer votre vie, dédier votre vie au basket?
Alors j'ai fait de la natation quand j'étais plus jeune, avant de partir de Reims. J'aimais bien ça, mais c'est vrai que je trouve qu'on est quand même très seul à la natation. Justement, c'est ce que je pouvais retrouver au basket, le fait d'être en équipe, le fait de pouvoir partager des choses avec des coéquipières, le fait de penser aux autres, en fait, c'est pas que soi, et c'est quand ça va, c'est toute l'équipe, quand ça va pas, c'est aussi toute l'équipe. Et j'aime bien, moi, cette affaire de collaboration, dans les bons comme dans les mauvais moments.
C'est ce que disait également, Jean-Aimé Toupane, c'est pas pour vous embêter que je le cite, mais il parlait aussi de cet amour, et je pense que beaucoup de basketteurs ou basketteuses seraient d'accord avec vous, de cet aspect collectif qui fait du basket un sport très particulier. On va continuer à parler basket avec vous, basket en France, basket au Cameroun, Andy Miem, un pays qui vous est cher également. On va parler, en attendant, on va ouvrir une petite parenthèse, on va parler d'un autre sport collectif, le football. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Le football, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bonjour Thomas de Saint-Léger.
Bonjour Hugo, bonjour tout le monde.
Miami Vice, vous êtes en Floride? Non pas pour jouer au golf avec Donald Trump, vous êtes l'envoyé spécial de RFI sur le Mondial des Clubs, cette nouvelle compétition très décriée qui vient de s'ouvrir aux États-Unis, donc pays hôte de la prochaine Coupe du Monde, des prochains Jeux Olympiques également, le Mondial des Clubs de la FIFA qui s'est ouvert avec Lionel Messi, justement, le régional, le local de l'étape, et son Inter Miami a affronté le plus grand club africain de l'histoire, Al Ahly. Et bon, le spectacle a-t-il été au rendez-vous? Les buts, non, mais c'était peut-être pas mal dans le contenu.
Oui, alors si vous voulez du spectacle, on va plutôt se concentrer sur la cérémonie d'ouverture, on va dire. C'était le plus intéressant, c'est déjà ça. Finalement. Non pas un show à l'américaine, plutôt un show à la latino-américaine. Vous savez qu'ici, les différentes communautés sud-américaines ou d'Amérique centrale sont très nombreuses, très présentes. Et c'est sur ces rythmes latinos que s'est donc ouverte cette Coupe du Monde des clubs, dans une ambiance très bon enfant dans ce Hard Rock Stadium de Miami. 65 000 places, on s'est dit jusqu'à la veille, oulala, ça sera compliqué de le remplir tout à fait. Et finalement, en bradant, en cassant les prix, figurez-vous qu'il était plein, ce stade, avec beaucoup, c'était très surprenant, de supporters rouges du Al Ahly à côté des roses de l'Inter Miami. Ça faisait un petit peu les, vous savez, ce petit paquet de bonbons de Frestagada Bigou. Ça colorait les tribunes dans ces deux nuances de couleurs. Alors les roses de l'Inter Miami, c'était, ce sont plus des spectateurs que des supporters. Déjà, c'est constamment le maillot floqué du numéro 10 Messi. On se lève, on applaudit à chaque toucher de balle de Léo, évidemment. Les supporters du Al Ahly étaient beaucoup plus présents vocalement, on va dire. Mais c'était un contraste intéressant, une ambiance bon enfant. Et je vous le disais, un stade rempli, on a eu peur. Mais bon, on a réussi en bradant les prix, je le disais, en offrant à des étudiants la possibilité de venir pour des tarifs vraiment très 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 faibles, hein. On parle de 5-6 dollars par personne.
On a réussi à avoir Messi, une ambiance dans les tribunes. Voilà, on a réussi à avoir une ambiance.
Il y avait quand même une ambiance. Voilà, on se moque parfois des stades de Cannes où l'on réquisitionne les militaires, vous savez, pour faire illusion et pour remplir les tribunes. Là, c'était plutôt les étudiants. Enfin, ils étaient tous quand même relativement contents, parce qu'habituellement, venir voir un match de sport et de l'Inter Miami en particulier, c'est très très cher pour eux. Là, je vous le disais, 5 dollars, 6 dollars pour certains. Ils étaient ravis de voir Messi quand même.
Et justement, Messi, il a encore ses jambes. Et comment ont répondu? Parce qu'a priori, il n'a pas réussi à forcer le verrou égyptien.
Ah, Messi, ça reste le facteur X de cette équipe de l'Inter Miami, qui globalement m'a semblé assez faible. D'ailleurs, il y a eu deux périodes très distinctes, hein. Une première mi-temps largement dominée par les Égyptiens, qui ont eu des énormes occasions, un pénalty arrêté, le gardien de l'Inter Miami, Oustari, a fait un match superbe. Et en seconde période, l'Inter a pour le coup repris un peu le dessus avec un Messi qui était en jambes, hein, et puis qui fait surtout la différence sur voilà ces petits coups de patte dont il a le secret. On va pas raconter son talent ici, tout le monde le connaît, mais bon, ça reste le meilleur joueur. Suarez, en revanche, Luis Suarez, là, on sent le poids des années, on sent peut-être aussi le poids de la vie nocturne de Miami, j'en sais rien, je vous le dis ça comme ça, mais il a bien vécu, hein, depuis ses années barcelonaises, Luis Suarez.
Bon, vous, il n'est pas encore très tard du côté de chez vous, on est plutôt à la mi-journée, donc vous profiterez de la nuit en Floride un peu plus tard. Merci d'avoir été avec nous, Thomas de Saint-Léger, le Mondial des clubs. C'est aussi le Bayern Munich qui affronte les Néo-Zélandais d'Auckland City. Avant la première période, on en est déjà à 4-0. Puis il y aura PSG Atlético de Madrid, une affiche plus classique type Ligue des Champions européenne. Tout à l'heure, Andy Miem, vous êtes spectatrice d'autres sports à part le basket, votre discipline, et le foot en particulier, des fois, ça vous intéresse?
Ouais, le foot, des fois, ouais, j'aime bien le PSG. Voilà.
Ah, vous allez les suivre ce soir, alors?
Peut-être, mais c'est vrai que là, dernièrement, j'étais beaucoup plus sur le basket. Mais sinon, ouais, le foot, j'aime bien regarder le PSG, l'équipe de France, évidemment. Et puis le handball, j'aime bien aussi.
D'accord, bon, ça vous fait un point commun avec Anne Dufour-Cornillier pour le handball. Tant pis pour le Stade de Reims, qui a priori n'a pas n'occupe pas votre temps libre. C'est pas grave.
And you could just feel the disappointment from the Pacer crowd. As Gildas Alexander stays perfect at the line, 7 seconds remaining. Halliburton throws it up, that won't go, and that'll do it. OKC with a thunderbolt here in the fourth, once again showing their resilience. And these NBA finals are tied at 2 games apiece.
Théo Quintard est également avec nous dans Mondial Sport sur RFI pour parler basket. Andy Miem est notre invité, mais il y a aussi une actualité très forte aux États-Unis. Bien évidemment, les finales NBA, c'est très serré. Théo, Pacers et Thunder ne se lâchent pas. On en est à 4 matchs, ça fait 2 partout. Chacun a gagné sur le parquet de l'autre. C'est passionnant, on se régale.
Ouais, c'est ça, on se régale. On s'était arrêté la semaine dernière à 1-0 pour les Pacers avec un gros tir de Tyrese Haliburton. Là, on est à 2-2. Et sur le dernier match, le match 4, bah, c'était un petit peu l'inverse. Le Thunder a braqué les Pacers. Et là, on se retrouve 2-2. Prochain match mardi. Donc, du coup, OKC a repris l'avantage du terrain.
Est-ce que on sent que c'est possiblement en train de pencher dans un camp plutôt que dans l'autre? Shai Gilgeous-Alexander, évidemment le MVP, le joueur clé de OKC, qui a été le dernier marqueur, je crois, du dernier match. Est-ce qu'il est en train de prendre à son compte ces finales NBA?
Alors, prendre à son compte, il fait comme il a fait toute la saison. Il a plus de 30 points de moyenne, je crois. Il est présent dans les moments cruciaux. Après, voilà, on a vu que le Thunder, depuis le début de ses playoffs, a un petit peu de mal sur le match 3, ça s'est vu. Donc voilà, après j'ai envie de vous dire, les Pacers sont tellement imprévisibles. Moi j'avais misé 4-1 ou voilà 4-2 au pire. Bon, le 4-2 est encore possible, mais les Pacers sont une équipe surprenante et pourquoi pas un premier titre de champion NBA pour les Pacers. Mais je pense que malgré tout, OKC reste favori puisque le premier match, je pense que voilà, ça a eu valeur d'avertissement. Donc maintenant ils sont prévenus, donc ils sont peut-être encore plus surmotivé à gagner cette série et cette finale. Du coup.
Pascal Siakam, il brille, le Camerounais. Alors, oui, Pascal, des Pacers.
Pascal Siakam, il fait son job, c'est le soldat numéro un de Tyrese Haliburton. Il est précieux, c'est un peu l'un des cerveaux de cette équipe. Voilà, lui aussi fait son job. Après, voilà, on en a parlé la semaine dernière aussi, les audiences NBA aux États-Unis pour ces finales. Et ça a encore un petit peu de mal cette année.
Malgré le scénario, malgré le fait que ce soit serré et plutôt intéressant à suivre.
Ouais, ben voilà, comme on l'avait dit la semaine dernière, c'est deux petits marchés. Donc si je reprends les chiffres, et voilà, ça sont les trois premiers matchs, parce qu'on n'a pas encore l'audience du quatrième match. On est à 8,9 millions de téléspectateurs aux États-Unis, avec un pic à 9,2 millions lors du troisième match. Donc c'est peu, je crois que c'est 20% de moins. Que l'année dernière sur le match 3. Mais Adam Silver, le patron de la NBA, a tenu à relativiser puisqu'il a dit, je cite, qu'il n'avait jamais vu deux marchés aussi passionnés depuis longtemps pour des finales NBA. Donc si au niveau national il n'y a pas un vrai engouement, au niveau local, que ce soit à Oklahoma ou Indianapolis, il y a une vraie ferveur populaire.
Andy Miem, est-ce que la NBA, c'est quelque chose que vous suivez en tant que professionnel du basket? Vous avez le droit de répondre franchement, parce qu'on a eu Isabelle Yacoubou il n'y a pas si longtemps qui disait « Ah non, moi je suis une très mauvaise élève, je ne regarde pas le basket
». Alors, je suis une élève moyenne, on va dire. Ça dépend des années. Il y a des années où voilà, je me prends le NBA League Pass et j'ai envie de suivre. Et là, franchement, cette année, je n'ai rien suivi. J'ai franchement pas eu le temps.
Il y a une raison particulière? Non, c'est le temps. C'est pas parce que quelque part, c'est pas votre basket. Enfin, je sais pas. C'est un basket qui vous intéresse pas. Ce grand show, vous êtes plutôt sur autre chose, entre guillemets.
C'est vrai que si je dois choisir pour du basket masculin, j'aurais plus tendance à regarder donc le championnat français. Et ensuite, je suis plus fan, on va dire, de l'Euroleague masculine.
Donc vous avez quand même un peu vibré pour les Français, les clubs français.
Voilà.
Cette saison, vous allez au Paris Basket peut-être parfois?
Eh bien, je souhaitais y aller. Là, je sais pas, c'est un petit peu la bataille pour avoir des places, évidemment.
On en a parlé. Ouais.
Donc, voilà, effectivement, j'aimerais bien, mais sinon, probablement que je regarderai le match à la télé.
Mais vous suivez, vous commentez aussi les matchs de l'équipe de France, n'est-ce pas, Anne? Je crois que vous avez eu l'occasion de vérifier ça pendant les derniers Jeux de Paris, tout simplement.
Oui, on était pour la même chaîne avec Eurosport, donc vous avez effectivement commenté les Jeux avec les filles. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, vous avez du coup vécu ces Jeux à travers l'équipe de France, mais en tant que voilà, consultant, vous étiez aussi en bord de terrain, comment c'était?
C'était vraiment une expérience extraordinaire à laquelle je m'attendais pas du tout. Voilà, j'avais été contactée et puis j'avais quand même encore un petit peu espoir à ce moment-là d'être dans la sélection. Et puis finalement non. Et donc j'ai été ravie de pouvoir en fait participer à ces jeux différemment et en ayant en fait un nouveau défi qui se présentait à moi. Donc voilà, commenter des matchs masculins, féminins, d'autres pays, de nations que parfois j'avais jamais vues. Donc c'était vraiment c'était c'était vraiment intéressant et j'ai apprécié faire ça.
Ça peut faire partie de vos projets de reconversion, de rester dans le monde des médias? Est-ce que vous avez envie d'entraîner? Est-ce que vous avez toujours envie d'observer et de jouer un rôle d'une manière ou d'une autre, pas trop loin des parquets dans le basket?
Alors à choisir, je crois que je préférerais commenter et rester dans les médias plutôt que d'entraîner. Mais effectivement, je me suis découvert, pas une passion, mais vraiment j'apprécie en fait commenter ce qui se passe et puis regarder le jeu en fait avec un œil un petit peu plus extérieur au terrain.
Et justement, là, il y a l'Eurobasket qui va commencer mercredi avec le match d'ouverture, la France contre la Turquie. Comment vous le sentez?
Moi, je vois la France aller très loin.
Parce qu'on rappelle, on l'a pas reprécisé, mais peut-être que nos auditeurs l'ont oublié, mais ces fameux JO, vous avez commenté les Françaises qui vont jusqu'en finale, qui vont faire comme vous, qui ont fait comme vous en 2012, qui ont été médaillées d'argent. Donc forcément, là, l'Euro arrive, les supporters français vont attendre beaucoup de l'équipe emmenée par Jean-Aimé Toupane.
Évidemment. Alors c'est vrai que là, l'équipe va être amputée de grandes joueuses comme Marine Johannes, Gabi Williams, Dominique Malonga.
Marine Fotoux aussi.
Oui, Marine Fotoux qui est forfait,
CBC,
voilà. Donc oui, c'est sûr que c'est des éléments importants qui seront absents. Néanmoins, en fait, je pense que la chance de la France, c'est d'avoir un vivier énorme de joueuses ultra talentueuses. Et je pense que malgré ces absences-là, on est capable d'aligner une équipe qui reste quand même parmi les meilleures équipes européennes.
Théo Quintard.
Oui, juste une petite question pour moi. Cet été, on a vu beaucoup de joueuses qui ont fait le choix de privilégier la WNBA, donc la Ligue d'été pour les filles aux États-Unis. Est-ce que Mandy, vous comprenez ce choix que beaucoup de vos anciennes coéquipières ont fait? Il me semble que vous avez pas une saison et pas forcément beaucoup de minutes, mais à Minnesota en 2008. Est-ce que vous comprenez ce choix que font certaines Françaises au détriment du coup de l'équipe de France?
C'est vrai qu'à chaque fois qu'on me pose la question, je dis que c'est compliqué parce que moi je vais réfléchir par rapport à une époque qui est différente de celle d'aujourd'hui. Je sais que moi quand j'ai eu l'occasion d'y aller, j'ai quand même voulu y aller. Et j'ai peut-être pas eu autant d'occasions d'y aller que les filles aujourd'hui. Donc c'est compliqué de se positionner réellement. Mais je peux comprendre qu'effectivement, elles aient cette envie d'aller découvrir et de jouer aux États-Unis, parce que moi, justement, j'avais cette envie d'y aller.
Ça s'était pas très bien passé, c'est ça?
Ça a été un petit peu écourté, on va dire que
faisait rêver aussi.
Ça me faisait aussi rêver, évidemment. Et ouais. Dans mon scénario idéal, je finissais MVP de la Ligue. Mais bon, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais non, je peux comprendre. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue entre la WNBA et la FIBA. Il y a peut-être des dates de compétition qui peuvent s'arranger pour que les joueuses peut-être ne se retrouvent pas à faire ce genre de choix.
Mais ça existe aussi chez les joueurs, pas que chez les joueuses. C'est un conflit d'agenda, de priorité qu'on retrouve régulièrement. Je parlais tout à l'heure de Pascal Siakam, un Camerounais donc, qui lui a découvert avec succès la NBA. Il a déjà remporté un titre et peut-être un deuxième arrivé. Je voulais vous faire écouter un de ses compatriotes. Il s'appelle Yves Missi. Il porte les couleurs des Pelicans de la Nouvelle-Orléans et il partage sur sa chaîne YouTube son quotidien.
Alors ça, c'est mon spot. Vous pouvez voir. Yves, Missy et tout. Ça, c'est la chose que je vais sûrement porter aujourd'hui. Les D2 Cut et voilà.
Alors pourquoi je vous fais écouter ça et pourquoi je vous parle d'Yves Missy? Parce qu'on nous a dit qu'il était passé par un camp d'entraînement au Cameroun, l'un de vos camps d'entraînement parmi ceux que vous organisez au Cameroun. Andy Miem, vous confirmez et surtout racontez-nous un peu ce que vous faites dans le pays de vos parents au niveau du basket. C'est du côté de Douala,
oui.
Précisément.
Alors, j'ai envie de confirmer parce que mon père me l'a confirmé. j'étais super contente d'entendre ça parce que moi, c'est quand même une fierté de se dire qu'il y a un joueur NBA qui est passé par notre camp. Bon,
vous lui avez peut-être
peut-être
mis
que c'est un petit peu
à
grâce à nous. En toute modestie, évidemment. Mais oui, c'est une fierté, on peut le dire. D'avoir des joueurs comme ça qui sont passés par notre camp. On va dire que l'objectif, c'est tout simplement de permettre à des jeunes de se retrouver pendant quelques jours et d'avoir en fait l'opportunité de s'entraîner dur, d'avoir des coachs qui sont là à leur disposition et qui leur permettent justement de s'entraîner comme ils l'aimeraient et de voir un petit peu ce que c'est que de devoir être intense et de voir l'exigence qui peut être demandée quand on cherche à progresser et aller le plus loin possible.
Guillaume Elam, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes en direct de Douala, justement, et vous êtes justement le patron de l'Académie Miem, c'est ça ?
Enfin, le patron, il n'y a pas de vérité.
C'était pour vous mettre en difficulté, c'était un piège. Bon alors, racontez-nous exactement ce que fait Andy Miem sur le terrain, enfin, ce qu'elle porte sur le terrain à Douala en matière de basket. Elle nous en a parlé et vous êtes là au jour le jour, racontez-nous.
Oui, là, je viens de l'écouter là et j'étais mort de rire parce que, effectivement, c'est moi qui ai parlé à son père du fait que Yves Mixi était au camp. Lui-même, il n'y croyait pas. Donc, comme le camp est filmé, j'ai fait des saisies d'écran, je lui ai envoyé. Il y a même des photos où il est en compagnie de Andy. Mais il ne s'en souvenait pas du tout parce que Andy, moi, je peux vous dire, c'est un bonbon. C'est un plaisir de travailler avec elle. C'est un exemple de générosité, de bienveillance, sourire permanent. Je ne sais pas si ça lui arrive de s'énerver, de se fâcher. Beaucoup de dignité. Vous voyez, quand elle dit que, quand vous lui posez la question si elle voudrait, souhaiterait entraîner, elle dit non. Mais moi, je comprends. Elle est beaucoup trop gentille pour gueuler sur des joueurs qui prennent actuellement. Elle est trop gentille. Sincèrement, c'est trop bien. Mais il faut qu'elle sache que, elle a donné, la vocation à beaucoup, parce qu'elle ne le sait pas, parce qu'on n'en a pas discuté, même avec son père, j'ai commencé à lui raconter un peu, mais que c'est à partir du camp que moi j'ai parlé avec le père de Yves, contre lequel j'ai joué dans ma jeunesse, parce que son père était basketteur aussi, et on a joué l'un contre l'autre. Je me souviens à une finale de Coupe du Cameroun gagnée par nous, c'était contre son père. Donc c'est à la suite du camp que j'ai appelé son père et il est venu me voir avec sa mère et on a discuté de l'éventualité qu'il parte aux États-Unis parce que moi j'ai vu tout de suite qu'il y avait quelque chose de particulier. Bon, ça a été son départ a été retardé de 2 ans parce que la mère était pas très chaude, le gamin était encore très très jeune, il avait 13 ans et demi, 14 ans à l'époque.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la famille Miem joue un rôle important donc dans le développement du basket camerounais. Vous confirmez ?
Exactement. À partir du camp, on a eu énormément de filles qui se sont inscrites dans les centres de formation au Cameroun. Moi-même qui dirige une association de différents centres de formation, je pense qu'actuellement, nous avons plus de filles que de garçons. Il faut vous préciser qu'au départ, quand l'idée du camp est arrivée, Andy voulait uniquement les filles. Et j'ai dû batailler vraiment pour qu'elle accepte qu'on ait quelques garçons dans le camp.
Mais parce que c'est quoi ? C'est un exemple pour les jeunes filles et vous avez découvert que c'était aussi un exemple pour les jeunes garçons. Elle est très populaire au Cameroun, Andy Miem ?
Elle ne le savait pas jusqu'à ce qu'elle vienne au Cameroun. Je pense que quand je lui disais qu'elle était très populaire, elle ne me croyait pas. Il a fallu qu'elle arrive au Cameroun et qu'elle reçoive tout cet amour de tous ses enfants et qu'elle comprenne. J'ai une anecdote. Il m'est arrivé un jour de voir dans la rue une jeune fille qui avait l'air d'avoir 11-12 ans, qui est avec ses parents. Elle avait un t-shirt blanc et elle avait écrit derrière au bic « Miem ». J'ai pas eu le réflexe de filmer ça, de le lui envoyer. Elle me croira jamais. C'est pour dire l'empreinte qu'elle a laissée ici. Moi, je suis débordé à chaque année, juin, juillet, je suis débordé de coups de téléphone. C'est quand le cas Andy Miem, je suis obligé de broder.
Mais justement, on va lui demander de réagir à ça. Andy Miem, vous la croyez, cette anecdote du nom écrit au bic sur le t-shirt ? Vous réalisez votre popularité dans le pays ? vous y allez encore souvent pour les camps d'entraînement ? Comment ça se passe ? Ça existe depuis quelques années ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés récentes pour que ça se tienne de manière régulière ?
Oui, c'est vrai que c'est quand même un petit peu lourd financièrement de pouvoir mettre ce genre de camp en place. Donc forcément, l'objectif, c'est de pouvoir justement en refaire dans les... Mais prochainement, très prochainement. Mais voilà, il faut réussir à trouver un modèle qui nous permette justement d'avoir les moyens de mettre tout le monde dans les bonnes conditions et de faire qu'on puisse pérenniser en fait ça dans le temps.
Mais redonner au Cameroun quelque part, enfin donner quelque chose, une partie quelque part de votre succès à la jeunesse camerounaise, c'était indispensable pour vous. C'est-à-dire que le lien avec le Cameroun, il est très fort, même si vous n'êtes pas né dans ce pays.
Oui, déjà de par mes parents, parce que je pense qu'ils ont souhaité depuis toute petite, voilà, toujours me parler un petit peu du Cameroun, me donner quelques anecdotes. Bon voilà, c'est les parents qui aiment toujours raconter.
Les deux sont nés au Cameroun.
Oui, les deux sont nés au Cameroun, donc oui, de par eux, forcément, j'avais envie de découvrir mon pays et j'ai envie de dire quel beau vecteur que le basket en fait pour réaliser ça. Donc c'est voilà, se servir du basket pour faire des rencontres, se servir du basket pour l'éducation, se servir du basket comme tout simplement moyen de partager avec les gens autour et c'est ce qu'on fait aussi en France. Mais voilà, de pouvoir le faire au Cameroun, ça avait forcément une saveur particulière et j'espère vraiment qu'on pourra refaire d'autres éditions.
Et le basket féminin, du coup, c'était ma question, et donc on a eu un petit peu la réponse. C'est vraiment ce qui vous importe le plus.
Ouais, parce que voilà, quand je parle de basket comme vecteur d'éducation, je pense que ça peut aussi être un vecteur d'émancipation. C'est important pour les jeunes filles de savoir que le sport et le basket en particulier, c'est aussi pour elles. Et de savoir que par justement ce sport-là, elles peuvent s'assumer, elles peuvent dire fièrement qui elles sont et tout simplement en fait, se tenir droite et affronter la vie et le monde.
La dimension, on va dire, citoyenne éducative, c'est important dans l'Académie MIEM, Guillaume Elam ?
Oui, bien sûr. D'autant plus que elle était très insistante dessus. C'est pas un camp de détection. On n'est pas là pour former des superstars. On est là pour former des hommes et des femmes de demain et leur donner, par le biais du basketball, leur enseigner certaines valeurs. Et c'est pour ça qu'un personnage comme Andy, avec ce qu'elle représente, est très important. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de prendre cet axe-là, parce qu'il y a énormément de camps qui sont faits au Cameroun, mais ce sont des gens qui viennent pour piocher des perles qu'ils amènent à l'étranger. Et c'était pas du tout l'objectif. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui en ont profité, et des garçons aussi.
Merci beaucoup, Guillaume Elam. Donc vous êtes un des responsables de l'académie qui porte le nom d'Andy MIEM à Douala. Et on vous remercie d'avoir été en direct avec nous. J'imagine que ça vous fait plaisir, Andy MIEM. Ce sera le mot de la fin pour cette émission, d'avoir ces échos du pays, de votre autre pays.
Oui, forcément. Mais c'est vrai que, comme Guillaume l'a dit, quand j'ai pu me rendre au Cameroun, j'ai vraiment reçu beaucoup d'amour et effectivement, il y avait du monde qui me connaissait et je me disais, mais j'ai quasiment jamais mis les pieds au Cameroun. Je me suis dit, mais personne ne saura qui je suis, ce que je fais. Et en fait, si, justement, ils savaient, ils suivaient. Et donc, c'était vraiment riche comme expérience pour moi.
Merci beaucoup, Andy MIEM. J'espère que vous avez reçu un peu d'amour aussi dans le studio de Mondial Sport et du respect et beaucoup de bonnes vibrations par rapport à votre formidable carrière. Merci beaucoup d'avoir été notre invité exceptionnel. Merci, Anne Dufort-Cornillier. Vous n'êtes pas pour rien dans la venue d'Andy MIEM aujourd'hui dans Mondial Sport. Merci également, évidemment, à Cetus Amaké, à Olivier Roux, à Laurent Philippot, toute l'équipe de Mondial Sport. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous réécoutez évidemment Mondial Sport, le www.rfi.fr. Vous pouvez même regarder, revisionner l'émission avec Hugues Fabrice Zango sur YouTube. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Demain, Radio Foot. En attendant, une excellente soirée à l'écoute de la Radio du Monde.